Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi, kobena.
It's okay, you know, it's okay.
Une sacrée épopée que nous allons vous conter aujourd'hui. À 40 ans, notre invité du jour a déjà vécu plusieurs vies. Celle d'un enfant burundais qui grandissait sereinement à Bujumbura jusqu'à l'horreur d'une guerre ethnique qui transforma drastiquement son quotidien. Contraint à l'exil, après avoir échappé à la mort, il se réfugie au Pays de Galles où il découvre la soul music de Ray Charles, Otis Redding, Marvin Gaye, mais aussi le reggae de Bob Marley. C'est à ce moment que sa destinée s'accélère, une aventure unique que nous allons évoquer avec Jean-Patrick Bimeni. Bienvenue.
Oh, merci de m'inviter. Grand honneur à moi.
Votre histoire est un roman, parfois tragique, parfois merveilleuse. En tout cas, particulièrement émouvante, puisque cet album Free Me, que vous nous présentez aujourd'hui, est l'expression d'une existence bousculée par des enjeux géopolitiques dont vous avez été la victime. Reprenons depuis le début. Vous êtes né dans un pays d'Afrique de l'Est, le Burundi, sur les rives du lac Tanganyika. Quels souvenirs avez-vous de votre enfance avant 1994, avant le conflit entre Tutsi et Hutu?
Toute une innocence. On joue au jeu, des amis partout. On se sentait capable d'aller dans n'importe quel coin du pays. Parce qu'aussi, on a des familles un peu éparpillées parce qu'on a cette culture des familles élargies. Dans les vacances, tu vas à la campagne, tu restes avec un grand arrière-grand-père. On t'apprend la famille, tu vois, étendue. Et c'est un peu compliqué aussi de garder l'idée à quel point vous êtes de la famille, quoi. Même âge, tu les appelles les cousins, cousines. Un peu âgés que toi, ce sont les oncles. Et plus âgés, ce sont grand-père, grand-mère. Comme ça, c'est plus simple.
Mais donc une vie sereine à l'époque.
Ouais, je dirais.
En 1993, quand les exactions éclatent, vous n'êtes qu'un adolescent et votre vie bascule. Que se passe-t-il précisément à ce moment-là à Bujumbura?
Il y avait une transition qui se passait à ce point-là, une démocratie qui arrivait et à la majorité des gens qui se disaient « c'est le moment à nous de gouverner ». C'était le premier président élu Hutu au pouvoir, qui était un truc très nouveau. Et d'un coup, on a assassiné le président et c'était des tueries partout, quoi. Je me suis très bien, quand j'ai quitté, je me suis senti que d'un coup, il y avait beaucoup de trucs que je ne savais pas. Il y a des histoires que je ne savais pas, les blessures, les traumas que je ne savais pas. Et l'organisation politique, tout, quoi, tu vois. Et j'ai découvert ça après et c'est un peu comme... tu n'étais pas là, tu vois. Je vis toujours... dans l'espoir.
Ouais. Lors des exactions donc, entre Hutu et Tutsi, vous décidez de fuir cette situation inextricable.
Ouais.
Vous réchappez deux fois à la mort, une fois par balle, une fois par empoisonnement.
Ouais.
Et au Kenya, où vous êtes en convalescence dans un hôpital de Nairobi, vous sollicitez une bourse auprès des Nations Unies et surtout un statut de réfugié. Et finalement, vous quittez le continent africain pour l'Europe et notamment le Pays de Galles, où vous commencez une autre vie. Quelles furent vos premières impressions en arrivant à Cardiff?
Mon impression, c'est, pour moi, c'est pouvoir respirer encore, tu vois, me dire que je ne suis pas en danger. Même s'il fait froid, il pleut presque tout le temps. Mais c'était trop excitant, quoi, parce qu'il y avait des élèves venant du monde entier, tu vois. On était entre 300 et quelques élèves, 90 nationalités. Ça veut dire que dans chaque chambre, vous dormez à 4 et chaque personne vient d'un autre continent, tu vois. Tu fais 2 ans là, et d'un coup, j'ai toute une famille globale.
À quel moment imaginez-vous devenir chanteur de soul music? Quel a été le déclic, en quelque sorte?
J'ai toujours résisté à devenir soul singer parce qu'on a grandi, on sait bien quand un soul singer, c'est un dieu, quoi, tu vois. Et quand on grandit, on admire, mais tu ne penses jamais, tu vois. Je crois que tout doucement, ça a été un truc... Je me trouve dans des situations où tout doucement je vais dans cette direction, quoi, tu vois. Et sans jamais y penser, sans... Moi, j'aime la musique totalement parce que je fais du rock, je fais de l'African sound, soul band. Bah, je suis toujours un peu ouvert, tu vois, à expérimenter, à passer, c'est ça la vie. Hein.
Alors, essayons de préciser.
Ouais.
Qui considérez-vous comme votre principale influence, dirons-nous?
Je crois entre Otis et Marvin Gaye. Hein. Les deux, là, c'est pour moi. Il y a l'intensité, il y a se laisser à la musique, tu vois. Se laisser transporter quand tu chantes. Et cette force, tu vois, je dis, OK, vous êtes king.
J'entends Al Green et... parfois Charles Bradley dans votre voix. Ce sont des gens que vous écoutez?
Ouais, Charles Bradley, la première fois que je l'ai rencontré à un festival à Lille.
Dans le nord de la France.
Ouais, il y a en 2012. Je ne savais pas qui il est à l'époque. C'est un festival qui s'appelait Nuit Secrète. L'organisateur Olivier m'a invité. Je vais te faire une expérience que tu ne veux pas oublier. Et là, des années après, je me dis, ah! C'était ça, tu vois. J'écoute Charles Bradley, c'est vraiment lourd au cœur de voir deux artistes du même label quitter comme ça par même maladie.
Sharon Jones
et Charles Bradley. Voilà, c'est lourd, c'est un peu lourd.
C'est vrai. Ah ouais. Mais bon, j'entends Otis Redding, Marvin Gaye, Charles Bradley, Al Green. Laissons nos auditeurs se faire une idée en écoutant I Miss You, extrait de Free Me. JP Bimini and the Black Belts.
Hey darling, how you doing? Here's another letter without a stone. Nothing has changed. And I'm still waiting for the day I hear from you. Something, just a sign. I haven't lost hope. I'm missing you, darling. I'm missing you so much. Now that you're gone, time's is so.
I Miss You, un extrait de l'album Free Me, signé JP Bimeni, notre invité dans l'épopée. Est-ce qu'au milieu de cette humeur soul indéniable, vous avez essayé d'injecter une part de votre culture originelle à travers des mots, des instruments, des rythmes ? Est-ce que la musique était présente dans votre enfance et vous la réinjectez aujourd'hui dans vos productions actuelles ?
Je crois que quelque part, quand je dansais au Burundi, quand j'essaie de me rappeler comment tous ces trucs, il y a des trucs qui se passent d'une façon subtile. Ouais. Tu ne paies pas beaucoup d'attention sur ça, mais quelque part, ça doit avoir des références. Je crois qu'au Burundi, dans la capitale, des radios dans l'après-midi, quand on fait des siestes, il y a des radios où on mettait des chansons européennes, américaines, africaines, tout. On était exposés à tout. Et chaque samedi, il y avait un programme qui s'appelait « Au-delà du son ». Alors, je disais à ma mère, quand, avant 18h, je disais « Vous avez quelque chose à me demander, à aller faire ?» C'est maintenant, mais à 18h, je ne suis pas là.
J'écoute la radio.
Ouais. On écoutait, et je me souviens très bien, quand j'étais tout petit, je n'avais pas l'idée que le monde était assez grand. Je me disais, on était dans notre coin du capital. Je me disais, quand je grandis, j'irai à la capitale, je rencontrerai tous ces gens. Alors, je ne remarquais pas le truc que ce sont des Blancs, on est en Afrique, tout ça. Et d'un coup, je n'ai pas remarqué que ça va prendre des années et parcourir des kilomètres et à traverser des océans.
Voilà. Mais finalement, vous y êtes parvenu.
Ah.
Je dois reconnaître mon inculture dans le domaine des musiques et instruments burundais. Ouais. Quelles chansons folk traditionnelles interprétiez-vous à l'école dans votre jeunesse ? Vous vous souvenez ?
Il y avait parce que j'étais parmi aussi des scouts.
Les scouts.
Les scouts. On avait des chansons qu'on chantait. Alors aussi, il y avait des chansons qu'on chantait beaucoup quand on faisait du sport chaque dimanche. Very Naughty et les mots, là, c'était juste pour se faire rire et oublier que vous êtes en train de courir. Tu vois
ouais. Je ne connaissais pas le Karienda, par exemple, ou l'Inanga, qui sont des instruments de musique.
C'est notre guitare traditionnelle.
Voilà. Vous en êtes servi de cette guitare traditionnelle ?
Non, pas encore. Et je crois que quand mon père était au lit ces derniers jours, je me suis très bien, il me disait, écoute, si tu dois faire quelque chose pour moi, il faut écouter les... Parce que dans l'Inanga, les paroles, il y a le mythe, il y a les sagesses traditionnelles qu'on a amassées au cours des années pour dire à l'autre génération. Vous comprenez aussi un peu plus votre culture et le passé. Et là, il faut que j'y m'y mette.
Ouais. Ça veut dire que le Burundi vous manque ?
Ah, beaucoup, chaque jour. Et je me dis que tout ce que je fais, c'est me préparer pour garder le rythme.
Et vous préparez peut-être au retour
un
jour ou l'autre.
Ouais.
Manu Dibango a souvent dit que d'un drame naissait parfois un bonheur. Ouais. Diriez-vous que votre douloureuse épopée vous a conduit vers une forme de sérénité face aux événements du quotidien ?
Ouais, parce que ça m'a donné, d'autres yeux, binoculaires.
Oui, je vois.
À voir à travers l'humanité. Qu'est-ce qui est plus important, lui, vraiment, quand on essaie de vivre ? C'est quoi ? C'est le matériel, c'est les relations, c'est quoi ? La spiritualité, tout ça. Mais quelque part, chaque humain, j'étais au téléphone avec mon oncle hier, que je vais visiter ce soir, il habite ici à Paris, on parlait de cette spiritualité, cette humanité, quel que soit où tu es sur cette petite roc, on appelle terre, que tout le monde, quelque part, que tu sois riche, que tu sois intelligent, pas trop intelligent, que tu es tout ce que tu as, qu'est-ce que tu es ? Quelque part, d'être humain, fondamental. Tout doucement, les gens, ils ne pensent pas beaucoup, parce qu'ils sont un peu distraits par des trucs qui sont aux étalages. Et je crois avec quand vous êtes frappé ou giflé par une situation, je dois dire que j'ai eu la chance d'avoir pu, survivre, gérer cette situation émotionnelle, psychologique et tout ça. Je dois dire que j'étais bien entouré, je dirais. J'ai eu la chance d'être bien entouré par l'école, et après l'école, des amis, le milieu d'emploi. Même si c'était dur quelques temps, j'avais la guitare.
Ça veut dire que la musique et cet album, c'est une thérapie ?
Ouais, toute la musique, c'est une thérapie. C'est une façon de... J'ai fait beaucoup de thérapie aussi pour ça. Le mot qui revient souvent avec le thérapeute, il disait, plus en plus, quand tu parles de ton histoire aux gens... Et ça devient comme une histoire. Ça ne devient plus toi. ça devient une histoire.
C'est pour ça que je parlais de roman au début de l'émission. C'est un roman, votre histoire.
J'attends, parce que tout le monde, c'est toute une longue histoire. Je dis, il faut que j'écrive un bouquin sur ça. Il y a une dame qui a dit, ouais, je suis prêt à publier. Je dis, ok, là, ça me donne le courage, quoi. Ouais.
Quand on intitule un album Free Me, Libérez-moi, ce n'est pas anodin. Free Me est en tout cas un brillant album, dont voici un nouvel extrait. Extrait de l'album du même nom, JP Bimini and the Black Bells. Cher Jean-Patrick Bimini, la France est en train de découvrir votre voix et votre expressivité, mais les Britanniques vous ont déjà vu sur scène. Ouais. Quel accueil avez-vous reçu le 31 octobre dernier au Ronnie Scott Club?
Oh, c'était merveilleux, c'était vraiment merveilleux parce que c'est un coin de musique, de jazz, très réputé. Il y a que des grands. Vous n'avez qu'à aller dans les couloirs et voir et sentir l'énergie dedans. Alors, pour venir travailler ici ou jouer ici, c'est comme faire un voyage au Tibet. Tu fais 10 ans, 15 ans, faire la méditation et tu as le droit de jouer là-bas. Je faisais ça. Je disais aux musiciens, ça sent qu'il faut aller quelque part. Fait, parce que ce sont des grands dans la musique. Et jouer là-bas, pour moi, ça prend longtemps pour faire l'introspection, voir ce qui vient de se passer. Parce que ça prend du temps. Je regarde, je vois magie qui se passe, qui s'est passé, qui se passe. Ça me prend toujours du temps. Et dans l'audience, je me suis senti j'étais à la maison parce que j'avais tout le monde, des gens que j'ai connus il y a 20 ans au Burundi, mes collègues au travail, des gens de la musique, et les gens qui viennent découvrir la musique en Angleterre, surtout le média, les journalistes. Alors là, et avoir aussi toute une équipe qui arrive de Madrid, rester chez moi, c'était un peu hectique, mais c'était vraiment génial, parce que je me suis senti, ça c'est parfait quoi, j'ai appelé ça comme un cercle parfait.
Comment voyez-vous votre avenir?
Moi je prends jour au jour.
Vous êtes confiant?
Ouais, j'ai toujours eu l'espoir, et dans mes prières je dis que ma vie sert à quelque chose, quel que soit, mais que ce soit bon, à inspirer ou à aider ou à faire sentir quelque chose. Et dans ce parcours, parce que je me vois toujours, quand je suis vraiment, vraiment vieux, à son rocking chair, avec mon tabac là, je dis grand merci Dieu.
Et toujours en train d'écouter de la musique, bien
ouais,
sûr.
Bien sûr.
Et un concert au Burundi, c'est envisageable?
Oui, c'est envisageable parce que le groupe à Madrid commence à parler parce qu'ils ont eu quelqu'un qui est intéressé à faire une tournée en Afrique, Est-Afrique. Alors là, pour moi, là, si ça arrive, là...
C'est le rêve.
C'est le rêve complet.
Retour aux sources.
Ouais, ouais. Parce que ce que je remarque, c'est... Il y a quelque chose que j'amène à l'Europe tant qu'individu. Il y a ce que l'Europe me donne que je manque au pays. Je me trouve, je dis, si j'essaie de rester le... Comment dire, le pont.
Si vous parvenez à faire le pont.
Ouais, ouais, à faire le pont. Et que je suis de l'autre côté, que j'arrive ici, je fais là-bas, tu vois. Comme au pays, trouver des amis, des savoir-faire, et des opportunités, et créer des choses, à amener des gens du monde, et prendre mes gens de mon pays, les exposer au monde. International Understanding.
Yes. Ça sera le titre de votre prochain album,
voilà,
peut-être.
Peut-être.
Je signale en tout cas que vous vous produirez très bientôt en France, le 31 janvier à La Rochelle, le 1er février à Bordeaux, le 2 février à Rouen, le 3 février à Paris à la Maroquinerie, le 5 février à Nantes et le 6 février à Orléans. Nul doute que d'autres dates s'ajouteront en 2019, tant ce disque est frissonnant. Merci beaucoup Jean-Patrick Bimini d'être venu de Londres pour nous rendre visite.
Non, merci de m'avoir invité, me donner cet honneur. Ouais.
C'est un grand plaisir. Et merci d'avoir fait l'effort de parler en français parce que, à force, vous avez absolument acquis une science en anglais. Mais c'est vrai que vous aviez progressivement perdu votre français. Il va falloir vous y remettre.
Oh, je sais. Faut que je... Parce que mon rêve, parce qu'on me dit toujours d'écrire en français, je me dis, je pourrais écrire en français une fois que je vis à Paris. Je me vois les matins, café, cigarette, écouter les chansons, tu vois, parler les gens. Et d'un coup, ça va venir.
En tout cas, tous nos voeux vous accompagnent.
Merci, grand merci, grand merci, grand merci.
Fade Away, un nouvel extrait de l'album Free Me, signé JP Bimini and the Black Belts, en tournée en France en février et peut-être bientôt donc sur le continent africain. La semaine prochaine, direction les Antilles, grâce à Tony Chasseur et Thierry Vaton, artisans d'un projet intitulé Musique au pays, et à la tête d'un créole big band furieusement swing que vous pourrez applaudir le 29 janvier au Café de la Danse à Paris. Autre rendez-vous à noter, le 13e Festival International de Jazz de Port-au-Prince en Haïti, qui a commencé ce week-end avec Sonny Troupé, Terence Blanchard, Cécile McLaurin-Salvant, et se poursuivra jusqu'au 26 janvier avec entre autres Denis Lapassion avec Étienne Bappé ou encore Relema et Laurent de Wilde. Le Pape Jazz, c'est donc jusqu'au 26 janvier à Port-au-Prince en Haïti. Et je termine avec le festival Sons d'hiver qui se tiendra du 1er au 23 février dans le Val-de-Marne près de Paris avec notamment Daniel Warreau, Steve Coleman, Fred Wesley et un hommage au poète et activiste américain Amiri Baraka en ouverture du festival le 1er février. Toutes les infos sur sonsdhiver.org. L'émission du jour était réalisée par la Soul Woman, une femme de cœur en quelque sorte, Nathalie Laporte. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans 30 secondes, le journal.